L'année dernière, nous avons essayé de creuser l'amour lui-même, l'amour conjugal, et de montrer comment cet amour peut se vivre en Dieu et avec Dieu, comme dit Benoît XVI, mais aussi de montrer comment il peut être un chemin vers Dieu. Cette année, on va essayer de parler plutôt de la fécondité de cet amour. Alors, c'est vrai que l'ordre logique, c'est de considérer l'amour d'abord lui-même, en lui-même, et puis ensuite la fécondité, mais par la fécondité de l'amour, on va aussi travailler sur l'amour, et tout se tient, et donc je pense que tout devrait être, je dirais, bien dans l'ordre. La question de la fécondité de l'amour, c'est aussi évidemment la question de la famille. L'année dernière, pratiquement, nous n'avons jamais parlé des enfants, pour dire ceux qui n'étaient pas là. Parce que je réservais donc cette question de l'enfant, de l'éducation pour cette année. Je souligne tout de suite que cette question de la fécondité de l'amour conjugal, elle dépasse la question de la fécondité biologique, même si nous traiterons évidemment ça, mais il y a une fécondité de toute façon de l'amour conjugal. Je dis ça pour les couples qui n'auraient pas encore d'enfant et qui se poseraient la question de savoir si un jour ils auront un enfant. L'amour, l'Église a toujours marié des personnes, même ayant un âge tel qu'il n'était absolument plus pensable qu'ils aient des enfants, mais malgré tout, il reste toujours une fécondité du mariage, hein, qu'ils essaieront de montrer. Cette question de la fécondité et de la famille devrait nous permettre de préciser une chose que nous n'avons pas bien pu préciser jusqu'au bout l'année dernière, qui est la complémentarité entre l'homme et la femme. Pour commencer cet enseignement à plusieurs voix, m'a semblé une bonne base de départ de partir du sacrement de mariage. Parce que dans le sacrement de mariage, comme nous allons le montrer, il y a à la fois la question de l'union des deux et en même temps du sens du mariage comme service de la vie. Je pars d'une parole de l'Évangile dans Saint Jean, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, pour un peu résumer ce que nous avons déjà commencé à voir l'année dernière, c'est-à-dire le mariage comme sacrement en tant que signe de l'union à Dieu, signe et moyen d'union à Dieu. Écoutez bien, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Il y a deux choses qui sont importantes dans cette parole de Jésus à la Samaritaine. Si tu savais, il y a une question de connaissance. C'est-à-dire si tu savais le trésor le plus précieux de ta vie. Si tu savais ce pourquoi tu as été créé, ben, ta vie changerait. Le deuxième mot, c'est prier, demander, on peut traduire aussi. Si tu l'aurais demandé, prier, si tu savais, tu l'aurais demandé. C'est-à-dire qu'il y a aussi un désir, une ouverture du cœur, qui désire rejoindre cette réalité qui est promise parce qu'il commence à la connaître, à la pressentir. Eh bien, dit en termes, je dirais, plus théologiques, la réussite de notre vie, c'est une question de sagesse. La sagesse, c'est la connaissance de la fin ultime. Et une question d'espérance. L'espérance, c'est ce qui nous ouvre au don. L'espérance, c'est le désir de la vraie vie comme de notre vrai bonheur. Donc, si tu savais le don de Dieu, si tu avais cette sagesse, c'est toi qui l'aurais prié parce que tu serais rempli d'espérance. Bien, on peut dire que c'est un peu ça le but de cette réflexion sur le sacrement, c'est essayer de voir le mariage dans un regard de sagesse, et d'avoir, de trouver cette espérance, d'être renouvelé dans notre espérance, c'était aussi un peu tout le but de l'année dernière par rapport à l'amour humain, en le montrant comme chemin vers Dieu. Rappelez la parole de Saint-Exupéry, hein, être marié, c'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Donc, la direction, il n'y en a qu'une, c'est le royaume de Dieu. C'est notre union à Dieu dans le Fils par l'Esprit Saint. L'année dernière, j'avais commencé l'enseignement dans la contemplation de l'icône de la Trinité de Roublev. Mais je rappelle simplement que Dieu est un mystère de communion, d'union, et qu'il nous a créés pour que nous puissions plonger dans ce mystère. Nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire immergés dans ce mystère dès le moment de notre baptême, mais c'est pour pouvoir en vivre vraiment. Nous comprendrons pleinement cette grâce quand nous serons au ciel, mais nous savons déjà vivre sur terre quelque chose de cette vie éternelle. Et alors le mariage, c'est quoi? C'est d'abord un sacrement, parce que c'est un signe. Un sacrement, c'est un signe. C'est un signe sacré. Le mariage est un signe sacré depuis toujours. C'est le seul sacrement qui remonte à la création. Certes, il a reçu avec le Christ une force nouvelle et une grâce nouvelle qui a été donnée, j'y reviendrai, mais le mariage est naturellement sacré parce qu'il est naturellement signe. Signe de quoi? Mais précisément de cette union qui nous attend avec un Dieu qui, au fur et à mesure que la révélation s'est approfondie, qu'on le voit dans l'Ancien Testament et plus encore dans le Nouveau Testament, s'est révélé comme un Dieu époux. Le mariage est fait pour être vécu relativement à un mystère qui le dépasse totalement. Le problème, c'est que ce mystère, nous ne le connaissons pas bien, si tu savais, et que nous avons du mal à le désirer parce que nous ne le connaissons pas bien. Et donc, c'est évident que le mariage peut être vécu refermé sur lui-même. Mais en réalité, ce que l'Église nous dit, c'est que ce mariage, il est fait pour être vécu comme un sacrement. C'est-à-dire, les époux seront d'autant plus unis l'un à l'autre qu'ils seront tournés d'abord l'un et l'autre vers Dieu.
Je voulais dire un petit mot sur la prière de couple, parce qu'en fait, tourné vers Dieu, en fait, c'est se mettre ensemble sous le regard du Seigneur. Et on se rend bien compte, en fait, que dans notre vie de couple, la prière conjugale, c'est pas toujours facile. C'est quelque chose qui est à redécider régulièrement, de se mettre ensemble sous le regard du Seigneur pour l'écouter et se laisser guider par lui. Nous, on voit bien que très régulièrement, il faut qu'on repense cette question et qu'on revoie comment se remettre sous le regard du Seigneur. Et voilà, il y a quelque chose qui nous aide. Depuis quelques années, en fait, on a la chance d'avoir très souvent l'adoration sur notre paroisse, y compris pendant deux nuits complètes par semaine. Et le fait, en fait, de prendre un temps au cœur de la nuit pour aller ensemble se mettre sous la présence du Seigneur, mais ça nous permet d'être fortifiés dans notre prière conjugale qui, au quotidien, en fait, est quelquefois bien, bien pauvre.
Moi, je peux quand même témoigner de quelque chose. C'est que de voir des couples qui s'aiment me rappelle ce pourquoi je suis fait. Bien plus que des livres de théologie. C'est-à-dire, le signe, c'est visible. Toute la beauté du mariage, c'est de rendre visible quelque chose d'invisible, mais qui demande à être vu avec les yeux du corps pour être vu avec les yeux du cœur. Le signe concret parle beaucoup plus que les mots. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles, je dirais, le démon s'acharne contre le mariage, dans notre monde qui s'éloigne de plus en plus de Dieu et qui donc lui laisse quand même aussi de plus en plus de place, c'est lui qui est le père du mensonge, c'est de défigurer le plus possible ce signe. De manière qu'il parle de moins en moins du mystère de Dieu. Comment dire à des enfants que Dieu est un époux fidèle s'ils n'ont jamais connu leur père? Vous voyez, tout se tient. Hein. Ici, on n'est pas au niveau, encore une fois, des concepts, au niveau d'une réalité qu'on expérimente, qui nous touche dans notre chair, qu'on a vécu dans notre cœur et qui nous renvoie à un mystère de Dieu. À ce moment-là, oui, l'enfant, même le petit enfant, peut comprendre, s'il a un père et une mère qui s'aiment, peut comprendre quelque chose du mystère d'un Dieu qui nous désire et qui nous aime pour lui-même, qui veut nous unir à lui, qui n'est pas un grand monarque bienveillant, qui distribue ses biens comme ça, avec générosité, mais qui nous aime avec toute la passion de l'amour véritable. Et cette passion de l'amour véritable, c'est-à-dire cet amour qui recherche l'union, c'est dans le mariage qu'elle est visible de la manière la plus forte. Alors, le fait de comprendre que le mariage est un signe, ça permet de ne pas idéaliser le mariage. Et de comprendre qu'il n'est pas le but ultime, mais il est un chemin, une réalité donc qui est le vrai sens de notre vie. Ça permet donc aussi, vous le devinez, d'accepter les limites du mariage. Alors, je ne reviens pas sur ces choses-là dont on a parlé l'année dernière, mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'un sacrement, au sens plénier du terme, le sens minimum et basique, c'est le signe sacré, mais le sens, je dirais, chrétien du sacrement, à partir du Christ, disons, le mariage, est devenu pas simplement un signe, mais un moyen d'union à Dieu. Pas simplement signe de l'union à Dieu, mais moyen d'union à Dieu. Ça, c'est plus difficile à comprendre. Hein, comment cette relation peut non seulement renvoie à une autre relation, mais qu'elle peut être un chemin réel, effectif, à une autre relation. Il faut reconnaître que ça ne fonctionne pas toujours comme ça, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Il y a des personnes qui restent enfermées dans un petit amour humain et un petit bonheur humain sans cheminer. Hein. Mais par le sacrement de mariage, il y a la grâce, et je vais essayer de l'expliquer ce soir, il y a la grâce pour cheminer, effectivement. Alors, ça nous oblige, pour parler du sacrement comme moyen d'union, de sanctification, enfin qui nous élève vers Dieu, ça suppose de reprendre un peu l'enseignement de l'Église sur les sacrements. Les sacrements sont tous donc des moyens d'union à Dieu. Moyens d'union à Dieu et aussi d'union les uns avec les autres, en Dieu. Alors, il y a 7 sacrements. Chacun a évidemment une grâce propre, une place propre. On peut comprendre la place des sacrements en faisant une analogie entre la vie spirituelle et la vie corporelle. À ce moment-là, la naissance, évidemment, c'est le baptême. La nourriture dont nous avons besoin tout au long de notre vie pour grandir et continuer à vivre, c'est l'Eucharistie. C'est le plus grand des sacrements. Et le sacrement qui nous permet d'arriver à une maturité à l'âge adulte, c'est le sacrement de la confirmation, hein, qui nous donne les grâces dont nous avons besoin pour accomplir notre mission sur terre. Ces 3 sacrements de l'initiation se joignent à ces 3 sacrements. Le sacrement de la pénitence qui et de l'onction des malades, qui sont des sacrements de guérison, qui sont là donc pour nous aider, compte tenu que nous restons pauvres et pécheurs, et que nous avons donc besoin pour vivre les sacrements de l'initiation, aussi à certains moments de réparer notre âme, si je puis dire, hein, de la soigner, de soigner aussi notre corps. Et il reste donc 2 autres sacrements. Le sacrement de l'ordre et le sacrement du mariage, qui sont dans la tradition de l'Église, mais mis sur le même niveau. Se marier, être prêtre, il n'y a que 2 sacrements qui sont des sacrements mission. Tous les 2 sont au service de la communion et de la mission. Les sacrements de l'ordre et du mariage en eux-mêmes, quand on les reçoit, à la différence du baptême, à la différence de la confirmation, à la différence du sacrement de pénitence, ne donne pas une grâce de sainteté ou d'amour supplémentaire. C'est pas au moment du consentement que vous recevez soudain un amour nouveau, un amour divin que vous n'auriez pas reçu le jour de votre baptême. Non. Ce qui se passe au moment du mariage, c'est que la grâce du baptême, c'est-à-dire cet amour nouveau que Jésus est venu répandre dans nos cœurs, qui nous fait aimer Dieu par-dessus tout et qui nous fait aimer l'autre en Dieu et avec Dieu, cette grâce du baptême reçoit une modalité particulière. Vous avez déjà entendu parler de ça? La charité divine devient charité conjugale. L'amour divin qui nous fait aimer Dieu et les autres en enfants bien-aimés de Dieu, avec le cœur de Dieu, devient un amour avec lequel on aime l'autre, avec, si je puis dire, le cœur d'époux de Dieu. Il reçoit une modalité propre. Mais le sacrement de mariage est fondé sur le sacrement de baptême et sur la grâce de l'Eucharistie. Mais si la personne, imaginons qu'une personne qui se marie à l'Église, sans être en état de grâce, comme on dit, alors sans avoir la charité divine en elle, c'est possible. Elle ne va pas recevoir cette charité divine par l'échange des consentements. Non. Si elle veut la trouver, cette charité divine, elle doit se confesser, la confession étant le deuxième baptême, un renouvellement du baptême. Elle a perdu la grâce de son baptême, qu'elle se confesse, qu'elle demande pardon à Dieu, elle recevra à nouveau cette charité liée au baptême. Mais par contre, ce qui reste, ce qui est le minimum mariage, si je puis dire, c'est le lien sacré lui-même qu'il faut distinguer de la grâce d'amour conjugal. Vous voyez ? La charité conjugale, autrement dit, c'est un amour nouveau qui fait que l'homme et la femme s'aiment en Dieu d'un amour très particulier qui a une note propre, qui est un amour sponsal, comme dirait Jean-Paul II, avec cette sorte de plénitude de tendresse, de sensibilité propre à cet amour. Ça, encore une fois, c'est donné dans la mesure où ceux qui se marient sont, comme on dit en théologie, vivants, sont vivants, c'est-à-dire vivent de la grâce du baptême. Sinon, il y a juste le lien sacré. Le mariage est un lien sacré puisqu'il est le signe d'une réalité sacrée, mais les personnes sont liées par un lien sacré sans avoir l'amour qui permet de vivre ce lien sacré. Qui explique qu'il y ait tant de divorces. Parce que les gens se marient, le plus souvent, sans vivre de la grâce de leur baptême. Et donc on a un sacrement qui repose sans fondement. Le sacrement du mariage se greffe sur le baptême. Il puise dans la grâce du baptême. C'est ainsi, vous voyez, que l'Église demande. Les catholiques qui n'ont pas encore reçu le sacrement de confirmation le recevront avant d'être admis au mariage. Si c'est possible, sans grave inconvénient. C'est pas simplement le baptême, mais l'Eucharistie et le sacrement de confirmation, les sacrements fondamentaux de l'initiation qui sont là nécessaires pour... En Italie, les gens vont jusqu'à la confirmation parce qu'ils savent que sinon, ils ne se marieront pas à l'Église. Nous, en France, on a démissionné. Mais normalement, personne ne devrait recevoir ce sacrement mission sans avoir toute la base nécessaire. Bien d'avoir conscience qu'il y a une cohérence dans les sacrements. Deuxième chose, pour que le sacrement de mariage soit reçu fructueusement, il est vivement recommandé aux époux de s'approcher des sacrements de la pénitence et de la très sainte Eucharistie. Il y en a peut-être parmi vous qui ne se sont pas confessés avant de se marier. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, c'est pas trop tard. Si vous prenez conscience ce soir que les fondements ne sont pas très solides, c'est un peu le but de notre rencontre de ce soir, c'est toujours possible de refonder. Mais il ne faut pas attendre du sacrement de mariage quelque chose qui n'est pas fait pour donner, c'est-à-dire, encore une fois, il se greffe sur une autre réalité qui doit être là et qui est plus fondamentale. C'est la même chose pour le sacrement de l'ordre. En en sortant de Notre-Dame, après avoir reçu l'imposition des mains du cardinal Lustiger et la prière de consécration sur qui est faite, eh bien, j'étais pas plus saint qu'en rentrant. Mais la charité qui habitait mon cœur est devenue, non pas charité conjugale évidemment, mais charité pastorale. Jésus m'a pas donné son cœur d'époux, il m'a donné son cœur de pasteur. Mais toujours sur la base de mon baptême. Est-ce que un couple peut témoigner de ce passage d'une forme d'amour à une autre forme d'amour avec le sacrement de mariage? Ça, c'est une question peut-être un peu délicate, mais...
J'ai été frappée souvent au mariage de nos enfants de voir que le jour de leur mariage, ils vivaient une sorte d'effusion de l'esprit. Que le jour de leur mariage, pendant la messe, ils étaient différents, rayonnants. Quelque chose se passait que moi, en tout cas, mon cœur de mère voyait très bien.
Oui, c'est évident que cette modalité nouvelle donnée à l'amour qui était déjà présent dans notre cœur par la grâce du baptême, est en même temps une effusion de l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce que dit... Il y a un autre... Il y en a parmi vous qui voulait rajouter, non?
Je voulais juste rajouter qu'il n'est jamais trop tard pour commencer et poser des fondements sur l'Europe. Moi, j'ai l'impression que nous, quand on s'est mariés, on n'a pas du tout reçu tout ça, en fait, parce que je pense qu'on s'est mariés sans faire très attention, disons, à ce qu'on allait recevoir, sans peut-être trop bien se préparer. Voilà, et on a été mariés, liés, comme tu dis. Et puis, je pense que après 10 ans, bon, avec toute notre histoire, etc., on a refondé en fait sur le roc notre mariage. On a vraiment reçu à nouveau, je pense, cet amour dont tu parles. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on a véritablement vu justement les fruits. On a commencé, disons, à progresser et à sentir qu'on avait quand même un amour l'un pour l'autre qui s'approfondissait, qui progressait, et notre amour a progressé en Dieu. Et c'est vrai que je pense qu'on a vu une différence.
Alors, ça veut dire aussi que tout ce que une personne mariée, tout ce qu'elle vit dans son cœur, souvent à l'insu de son conjoint, pour se rapprocher de Dieu, pour ouvrir son cœur à l'amour de Dieu, tout cela, d'une manière mystérieuse qui dépasse ce qu'on peut calculer, rejaillit sur la relation conjugale. Puisque par la grâce du sacrement de mariage, tout amour divin reçoit cette modalité nouvelle. Bon. Ceci dit, la charité divine, cet amour nouveau que Jésus est venu répandre dans nos cœurs, malades et blessés par le péché, cet amour nouveau ne rejaillit pas automatiquement sur la vie concrète, au sens qu'il viendrait vivifier et tout transformer, comme le levain qui fait lever toute la pâte, parce que habituellement, cet amour... il est au fond de nos cœurs, mais il y a d'autres, je dirais, il y a l'homme nouveau et puis il y a le vieil homme, quoi. Donc il y a notre amour ancien, notre manière humaine d'aimer qui quelquefois reprend le dessus. Quand je dis manière humaine d'aimer, c'est-à-dire forcément un peu égocentrique, hein. Et donc il restera, il y a deux problèmes, c'est de creuser cet amour au fond de notre cœur, mais aussi de lui permettre à cet amour nouveau de rejaillir et de transformer progressivement toute la manière de vivre la relation. Ça se fait dans le temps. Ça demande une purification de l'affectivité, purification aussi de l'agressivité, une intégration donc de notre psychisme, de nos facultés psychiques, dans cet amour divin. J'aime beaucoup, vous voyez, dans Ézéchiel, le passage où il est dit que du côté du temple, le temple c'est notre cœur, coule un fleuve, et que partout où l'eau passe, la vie fructifie et tout est purifié. Et c'est ça l'amour divin. Nous avions essayé d'en parler l'année dernière, mais j'espère que nous aurons l'occasion de reprendre, de repenser à la manière dont cet amour peut concrètement transformer notre vie quotidienne. Ce qui est sûr, c'est que c'est en se vivant d'abord enfant de Dieu que l'on vit bien la relation. C'est pas en restant focalisé sur la relation de couple. Ça, ça découle logiquement de l'enseignement de l'Église sur le rapport entre les sacrements. Écoutez ce que faisait remarquer Benoît XVI à propos d'un danger. Danger qui est de demander à Dieu qu'il vienne sauver l'amour humain, de secourir l'amour humain, de secourir le mariage, sans se tourner vraiment vers lui. Or, la clé de transformation de l'amour, c'est d'aimer Dieu d'abord. Et pour pouvoir aimer l'autre en Dieu. Mais beaucoup se tournent vers Dieu pour demander à Dieu qu'il les aide dans leur amour humain en transformant Dieu en moyen, alors qu'il est la fin. Écoutez, c'est pas un problème. C'est pas un problème nouveau. Écoutez Saint Ignace de Loyola, 16e siècle. Il arrive par exemple que beaucoup choisissent en premier lieu de se marier, ce qui est un moyen. Le mariage est un sacrement c'est un moyen. Et en second lieu, de servir Dieu, notre Seigneur, dans le mariage, alors que servir Dieu est la fin. D'ailleurs, c'est toujours ce même problème, c'est d'inverser le signe et la réalité ultime. Du moyen, une fin. Et si vous voulez que Dieu transforme effectivement votre vie de couple, donnez-lui sa vraie place, qui est la première place. Vivez le baptême. C'est ça le message de cette réflexion sur les sacrements. Oui, Philippe.
Alors, moi, je voudrais témoigner du fait que, quand même, se tourner vers le Seigneur, il y a une chose qui m'a fait longtemps peur, d'une certaine façon, c'est la jalousie de Dieu. Dieu est jaloux de notre amour à chacun d'entre nous. Et alors, effectivement, ce que dit le Père Louis. Et juste, et alors en même temps, si je me retourne vers ma femme, je me dis, oulala, alors elle va s'orienter vers le Seigneur plus que vers moi, donc là je suis un peu dans la compétition, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas si simple que ça. Et donc, en fait, enfin, moi j'ai mis du temps, personnellement, justement à découvrir que c'était en se tournant vers Dieu qu'il nous donnait vraiment sa grâce, qu'il nous remplissait de son amour, de sa joie, enfin, etc., et que c'était débordant. Et que c'était vraiment le bon sens. Mais on peut être arrêté. Moi, j'ai été arrêté personnellement pendant un certain temps dans mon chemin, dans mon couple, à cause de ça.
Et puis, c'est vrai que concrètement, il faut aussi veiller à ce que, lorsque nous nous tournons vers Dieu, ce ne soit pas une fuite de l'autre.
Ben, c'est-à-dire. Il y a une personne qui m'avait dit qu'elle avait trouvé la solution dans son mariage, c'était de remplacer la sexualité par la spiritualité. Alors j'ai dit, c'était pas tout à fait ça. Et effectivement, quand tu dis fuite, ça me fait penser à ça. Remplacer la sexualité par la spiritualité, j'imagine la tête de l'époux.
Ou de l'épouse, hein.
Il y a de quoi être devenir jaloux, effectivement. Mais sinon. Normalement, tout bon chrétien normalement constitué doit au bout d'un certain temps réaliser qu'il n'est pas le Dieu de son conjoint. Normalement. Non, mais au bout d'un certain temps, quoi. Au bout de 50, 60 ans de mariage. Bon. Alors, Nous avons dit que le mariage en lui-même ne donne pas une grâce de sainteté, mais qu'il donne une modalité nouvelle à l'amour divin qui est déjà en nous. Mais l'Église enseigne en même temps que ces sacrements de l'ordre du mariage contribuent, nous sanctifient aussi, sont un moyen d'union à Dieu. Ils vont bien nous sanctifier, mais à travers la mission qu'ils représentent. C'est-à-dire, il y a une mission dans le mariage, et c'est en assumant cette mission, en vivant cette mission, que les époux vont pouvoir se sanctifier l'un et l'autre. La première mission du mariage, c'est quoi? C'est de faire effectivement une seule chair. C'est de vivre cette vie commune. De vivre effectivement cette union, non seulement physique, mais aussi de vivre non affective, et puis une union de cœur, d'âme, de cœur et de corps. Si on veut prendre une anthropologie complète, le cœur, l'âme et le corps. De vivre dans toutes les dimensions de l'être, spirituel, psychique et physique, cette union. Pourquoi c'est la première mission des époux de s'appliquer à cette vie commune, de ne pas renoncer à cette vie commune, de rechercher cette communion dans la vie concrète? On y reviendra, mais c'est tout simplement parce que le sacrement a comme vocation naturelle d'être signe du mystère de Dieu, du mystère, du grand mystère de l'union à Dieu, et donc les époux sont, je dirais, appelés à vivre et à travailler cette union pour pouvoir être des signes rayonnants du mystère dont ils sont dans le mariage et le sacrement. La première manière dont vous pouvez éduquer, évangéliser vos enfants, on y reviendra, c'est de vous aimer l'un l'autre et de vivre cette union. Quand on parle aux enfants du mystère de la Trinité aussi, que Dieu est un mystère de communion, là ils comprennent, s'ils voient cette union se vivre dans le mariage, d'abord au niveau des conjoints, et ensuite s'ils l'expérimentent au niveau de la famille, on reviendra là-dessus. La deuxième mission du mariage, c'est quoi? C'est de servir la vie. C'est que cette union doit être féconde. Donc c'est surtout ça qui va nous occuper cette année. Et les époux, pour vivre cette mission, nous dit l'Église, reçoivent une consécration. L'Église dit qu'il n'y a pas que le prêtre qui est consacré pour être pasteur, mais les époux chrétiens, pour accomplir dignement les devoirs de leur état, sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial. Donc il y a une consécration qui se surajoute, une consécration particulière qui se surajoute à la consécration du baptême, et qui est une consécration pour une mission. Et qu'est-ce que ça change d'être consacré par le mariage? Comment on peut comprendre? Consacré, ça veut dire appartenir à Dieu d'une manière particulière. Va être dans la main de Dieu d'une manière particulière, ça veut dire, je pense qu'on peut comprendre ce que ça veut dire en regardant Cana. Qu'est-ce qui se passe à Cana? Ce qui se passe à Cana, c'est d'abord que Jésus est présent. Qu'est-ce que vous dit l'Église? Vous êtes mariés devant Dieu, le Dieu époux qui s'est fait homme, le Christ Jésus, vous assure de sa présence. Il restera toujours avec vous. Je cite le catéchisme. L'époux, le sauveur des hommes, l'époux de l'Église, vient à la rencontre des époux chrétiens par le sacrement du mariage. Il reste avec eux. Il leur donne la force de le suivre en prenant leur croix sur eux, de se relever après leur chute, de se pardonner mutuellement, de porter les fardeaux les uns des autres, d'être soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ, et de s'aimer d'un amour surnaturel, délicat et fécond. Il n'y a rien de plus beau que l'amour conjugal quand il est vécu comme un amour surnaturel, délicat et fécond par cette présence du Christ qui est là et qui ne cesse de conduire les époux plus loin dans l'amour. Consacré, sanctifié, saint, consacré en grec, c'est le même mot. Je veux dire que le mariage est une forme de consécration, ça veut dire que cette vie de couple qui est si profondément humaine, si profondément ancrée dans la nature à la fois corporelle et psychique de l'homme, cette vie toute humaine est en même temps toute sacrée. La relation est sacrée, mais elle est consacrée. Ça veut dire concrètement une présence particulière du Christ et, encore une fois, une grâce qui accompagne les époux pour que, de fait, cette vie commune, progressivement, ouvre leur cœur, élargisse leur cœur et leur esprit pour faire qu'ils soient de plus en plus remplis de Dieu et de cet amour divin au travers même de cette fidélité à la vie commune et au travers même de tout ce qui est service de la vie sur lequel on reviendra. La chose la plus, peut-être la plus importante que vous pouvez, la grâce la plus grande, c'est d'avoir, en sortant de cet enseignement, c'est d'avoir un regard de foi sur cette vie de couple qui est la vôtre. De penser qu'il y a que Dieu, par la grâce du Christ, veut tout faire concourir à la plus grande réussite de votre vie, c'est-à-dire que vous puissiez effectivement, l'un par l'autre, vous entrer dans son royaume. Quand j'exerce mon ministère, mais même au-delà, par la grâce du sacrement de l'ordre, bien, c'est sacré. Tout ce que le prêtre vit dans le cadre de son ministère est sacré par la grâce du sacrement de l'ordre. Mais tout ce que vous vivez dans le cadre de votre mission propre de marié est sacré, de manière analogue.